Carrefour.
Quand vous me dites
Carrefour baisse ses prix.
Oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés au rayon yaourt surgelé et traiteur de la mer. Comme le pot de 850 g de yaourt protéiné nature 0% skyr de Yoplait qui passe de 3,76€ à 3,39€, soit 10% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Prix baissé à compter du 1er juillet 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
C'est la surveillance du jour. Écoute téléphonique, géolocalisation ou encore même filature. Selon un rapport de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, jamais autant de personnes n'ont été surveillées en France, Martin.
24 209 personnes surveillées l'année dernière, 15% de plus. En un an, voilà ce que nous dit cette Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui précise que cette augmentation est liée à une lutte plus intense contre les narcotrafiquants. Un quart des personnes surveillées sont des trafiquants présumés. Ça, c'est du jamais vu jusqu'ici. C'est toujours la lutte contre le terrorisme qui a engendré le plus de surveillance. Et elle arrive, cette lutte contre le terrorisme, désormais en deuxième position. 2500 personnes sont également surveillées pour prévenir des violences collectives menées par des activistes. Mais la grande nouveauté, l'autre grande nouveauté, c'est la lutte contre les ingérences pour laquelle les services de renseignement sont de plus en plus mobilisés.
Les ingérences étrangères.
Les ingérences étrangères, tout à fait, dans le contexte évidemment de la guerre en Ukraine. Près de 95 000 demandes de placement de mouchards ont été déposées par la DGSI et la DGSE l'an passé. Et dans le même temps, il y a de moins en moins d'avis défavorables rendus sur ces demandes. Alors, ça reste encore minime, hein, il y a 1,6% des demandes qui sont acceptées.
Record de personnes surveillées par nos services de renseignement, c'est rassurant ou c'est inquiétant? Vous nous appelez au 3216. Perico Légas, là on est dans le film d'espionnage, hein, on est... On dit avec des mouchards, avec des micros, des caméras, des filatures parfois. Est-ce que cette multiplication d'activités de la part de nos services de renseignement, ça t'inquiète ou ça te rassure?
Si les normes légales et les garanties de liberté sont assurées et vérifiées et contrôlées par les instances compétentes, c'est extrêmement rassurant. On doit se douter qu'en fait, on manque de moyens pour en faire plus, parce que je suppose qu'il y a plus de 24 000 personnes suspectes pour toutes les raisons qu'on peut avoir de suspicion sur le comportement, la délinquance, voilà. Mais déjà de savoir qu'il y a 24 000 personnes, parce qu'on dit aujourd'hui que la police a peu de moyens. Les policiers vous disent eux-mêmes, il y a des affaires qui n'aboutissent pas parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on n'a pas les dossiers, on n'a pas le matériel, voilà. Là, on sait au moins que les personnes les plus dangereuses sont surveillées par des moyens technologiques dont Anthony Morel nous ferait certainement l'éloge. Voilà, et ben c'est extrêmement rassurant, mais je dis bien... Je suppose que c'est le cas. J'espère que tout ça est extrêmement contrôlé parce que il y a une atteinte aux libertés évidente.
Ben oui.
Voilà, et il faut s'assurer que c'est bien le cas. Maintenant, si la personne est dangereuse, si ça peut sauver des vies ou éviter des délits ou éviter des désagréments pour le pays, c'est extrêmement salutaire. On ne peut qu'encourager le ministère de l'Intérieur à déployer cette méthode qui n'est pas répressive. Hein, on les met pas en prison, on les surveille.
Laurent Dandrieu, est-ce que c'est rassurant ou inquiétant?
Alors moi, je vois pas bien dans quel monde ça pourrait être rassurant, dans la mesure où ça correspond à une explosion du nombre de gens potentiellement très dangereux, parce que c'est pas des gens qui sont susceptibles de voler des pommes, hein, qu'on met sous ce genre de surveillance. Donc ça veut dire que effectivement, ça traduit en partie, notamment l'explosion et la dangerosité accrue des trafiquants de drogue.
Ou alors on met plus les moyens.
Oui, je suis pas absolument certain. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que effectivement, c'est très bien de surveiller les gens dangereux, mais on a un certain nombre d'exemples dans l'actualité récente qui prouvent que ça n'empêche pas le passage à l'acte. Je rappellerai sur le cas du terrorisme, le cas tragique de Dominique Bernard, hein, qui a été assassiné, ce professeur d'Arras qui a été assassiné par quelqu'un qui était surveillé
qui venait de l'être 24 heures avant,
qui avait
24 heures avant
eu un contrôle
deux ou trois jours avant,
la veille.
Mais c'était vraiment le début de la surveillance.
On parle d'une surveillance très technologisée, je pense que c'est vrai notamment pour les narcotrafiquants, mais lui en l'occurrence sa surveillance, ça consistait à aller le voir de temps en temps pour estimer ou juger dans quel état d'esprit il se trouvait. Donc c'est pas super rassurant. Il y a le cas Arnaud Beltrame, hein, qui a été aussi assassiné par un type qui était fiché S. Deux mois après l'assassinat de Dominique Bernard, il y a un autre fiché S qui a tué quelqu'un à coup de couteau en bas de la Tour Eiffel. Voilà, donc malheureusement là, cette surveillance, elle est pas elle empêche pas les passages à l'acte.
De toute façon, voilà. Tu sais, pour avoir déjà traité le sujet,
du tout, voilà.
À chaque fois qu'on interroge des personnels des services de renseignement, ils te disent toujours que de toute façon le risque zéro n'existe pas. Ils font ce qu'ils peuvent et moi je pense qu'ils font le maximum. Depuis le 2020, combien d'attentats déjoués?
14 attentats déjoués depuis 2020, on n'en a jamais déjoué autant, c'est ce que disait Gérald Darmanin au mois de mars.
Et là on parle de tentatives d'attentats, c'était vraiment enfin un stade déjà bien avancé.
Les moyens dont on parle sont quand même très inférieurs encore à ceux qui seraient nécessaires pour surveiller effectivement efficacement tous ces gens-là.
Un record de personnes surveillées en France par nos services de renseignement. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que ça te rassure, Lumière?
Bah, un peu les deux, parce qu'en fait, ça dépend de qui on parle. C'est-à-dire que si on parle de narcotrafiquants et de personnes qui prévoient des actions terroristes, bien sûr que ça me rassure de savoir que la police et les services sont sur le coup. Et je pense qu'avec, en effet, assez peu de moyens, ils font un travail admirable. On le voit en termes de résultats, les attentats déjoués, la capacité à anticiper les passages à l'acte. Donc ça, moi, ça me, je trouve que c'est très bien que ces services existent et que je ne sais pas s'ils ont des velléités d'être plus financés, mais si c'est le cas, je pense qu'ils devraient l'être. Ensuite, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'infrastructure qui permet ça, c'est-à-dire l'arsenal juridique et législatif qui permet la surveillance de masse potentielle. Donc aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Moi, en tant qu'activiste écologiste, j'ai très peur. J'ai très peur parce que j'ai des collègues qui sont fichés S pour la simple raison qu'ils étaient présents à Sainte-Soline.
Où il y a des violences, de très violents
affrontements. Oui, d'accord. Enfin, entre 30 personnes et la police. Donc pas les milliers de personnes qui étaient présents à Sainte-Soline. Je suis très inquiète à l'aune d'un potentiel gouvernement d'extrême droite en France de savoir que cet arsenal juridique existe et donc qu'il pourra être déployé de toute sa force sur tous les ennemis potentiels, les adversaires idéologiques potentiels de ce régime. Et ça, je crois que tant qu'on n'est pas concerné par ces mesures, on n'en prend pas vraiment la mesure et l'importance. Et donc, moi, ce qui m'interroge, c'est comment est-ce qu'on décide, pourquoi est-ce qu'on on surveille des gens des soulèvements de la terre qui, je le rappelle, sont connus pour avoir arraché des salades. Enfin, c'est quand même ça le sujet. Donc, du coup, mon point, il est où est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que on est vraiment capable d'identifier quand on surveille des gens parce qu'ils sont effectivement dangereux pour le pays? Mais je rappelle, par exemple, que des gilets jaunes qui ne s'étaient rendus coupables d'aucune violence ont été mis sur écoute, ont été fichés S, et que cet arsenal-là, dans les mauvaises mains, il est très dangereux pour le pluralisme et pour la démocratie, je crois profondément.
Et tu ne crois pas aux garde-fous
aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est demain. Demain. Et je le dis d'autant plus facilement que c'est des mesures qui ont largement été débutées par la gauche après les attentats de 2015. Donc, j'ai pas de sujet. Pour moi, c'est pas si partisan. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est en effet dans une dérive autoritaire, comme elle peut tout à fait se produire à partir de dans 10 jours, quoi. Qu'est-ce que dans quelles mains ces services vont tomber? Est-ce que on continuera à avoir une surveillance accrue sur les groupes d'ultra-droite qui, je le rappelle, eux aussi préparent des attentats terroristes, ou est-ce que on va rediriger ces moyens pour faire taire les opposants au régime en place? Moi, c'est ça qui m'inquiète.
Je rappelle juste pour ce que tu disais à propos des soulèvements de la terre qu'il ne faut pas qu'arracher des salades à Sainte-Soline. Il y avait eu des violents affrontements. Tu dis qu'ils étaient 30. C'était peut-être pas des soulèvements de la terre, mais enfin, il y avait quand même 47 gendarmes blessés.
Oui, et combien
dont plusieurs grièvement.
Très bien. Et combien de blessés
Il y a eu aussi de très nombreux blessés.
Voilà,
parmi
c'est
les activistes.
Ça. Donc en fait, il y avait
les gendarmes n'étaient pas face à deux, trois arracheurs de salade.
Non, je ne te dis pas le contraire. On peut reparler de Sainte-Soline, mais moi, je te dis que les gens qui, en effet, se sont rendus coupables de violence à Sainte-Soline, ça n'était pas du tout la totalité des gens qui étaient présents. Je l'ai dit sur ce plateau à nombreuses reprises, ces personnes-là qui enfreignent la loi doivent être interpellées, doivent être jugées.
Et potentiellement.
Ah, oui, potentiellement. Mais d'accord. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait la différence? Parce qu'aujourd'hui, non, mais juste quand même pour finir là-dessus, parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la lutte contre l'A69, il y a des gens qui ont été mis en garde à vue, qui ont été condamnés avec des peines qui se chiffrent en milliers d'euros et à du sursis pour avoir ravitaillé des personnes qui dormaient dans des arbres. Pour empêcher des coupes illégales d'arbres.
Les personnes, les activistes surveillés pour prévenir des violences collectives, c'est 2500 personnes sur les 24 000.
Oui.
la moitié des personnes qui sont surveillées actuellement, 12 000 en gros, 14, ouais, entre 12 et 14 000, c'est à la fois pour lutter contre les attentats terroristes et pour...
Et ça, moi je l'ai dit, je trouve que c'est très bien parce que ça répond à un besoin de sécurité collective. Ma question, c'est la dérive.
Jonathan est avec nous. Bonjour Jonathan.
Bonjour Rémi.
Merci beaucoup de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes en Charente-Maritime à La Rochelle.
Ouais, c'est ça.
Magnifique, c'est ça. Magnifique La Rochelle. Jonathan, vous faites quoi dans la vie ?
J'ai plus de travail actuellement parce que j'ai une maladie un peu bizarre, donc je peux plus travailler. Voilà.
Bon, prenez soin de vous.
Que ça va aller beaucoup.
Je vous écoute tous les jours et j'adore quand c'est toi qui présente, Rémi.
C'est gentil. D'ores et déjà, et comme ça, on n'en parlera plus, mais on vous souhaite le meilleur, Jonathan.
Oui, c'est gentil.
Est-ce que ça vous rassure ? Est-ce que ça vous inquiète ce record de personnes surveillées par nos services de renseignement, Jonathan ?
Eh ben, en fait, les deux, c'est rassurant quand on s'attaque aux bonnes personnes, mais c'est un petit peu inquiétant parce que moi, j'y ai eu le droit, donc c'est pour ça que j'ai envoyé un petit message.
Racontez-nous.
En fait, il y a 4 ans, on a décidé avec les riverains de notre village, on est un petit village à côté de La Rochelle qui s'appelle Saint-Cendre.
Ouais.
Et en fait, on a monté une association de riverains parce que la CDA de La Rochelle a décidé de venir nous imposer dans notre hameau paisible jusqu'à maintenant. Une méga déchetterie et 60
C'est quoi la CDA?
C'est la communauté d'agglomération.
D'accord.
Qui regroupe 28 communes aux alentours.
Donc ils voulaient vous installer une méga déchetterie dans votre commune.
C'est ça, plus 60 entreprises industrielles juste devant nos portes, devant nos fenêtres. Quoi.
Alors ouais, ça fait bizarre. Ouais.
Dans un petit hameau super sympa jusqu'à maintenant. Mmh. Et puis dans le coup, on a monté une association de riverains pour lequel j'ai été élu président.
Okay.
Et puis en fait, il y a un an et demi, 2 ans, je reçois un coup de téléphone un après-midi pour me dire « Monsieur Fèvre, est-ce que vous êtes chez vous dans une heure ?» Alors je dis oui, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et on me dit c'est les renseignements généraux, vous bougez pas de chez vous, on arrive tout de suite. Donc aussitôt moi j'appelle mon avocat, parce qu'on a un avocat sur La Rochelle, et je dis est-ce que vous pouvez venir, parce que là je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose de bizarre. Mmh. Et en fait ils ont débarqué à deux, et en fait ils m'ont fait un interrogatoire pendant 3 heures en me disant que j'étais un groupe dissident, qu'on avait menacé de faire des violences, alors que jusqu'à maintenant on n'avait absolument rien fait du tout. On avait juste mis des procédures au tribunal avec nos avocats en bonne et due forme. Et en fait, ce qui est très inquiétant, c'est qu'ils connaissent tout. Ils connaissaient mes anciens employeurs, ils connaissaient ma femme, ils connaissaient mon logement, ils connaissaient tout ce que j'avais, mon patrimoine. Ils savaient tout, en fait.
Et ouais, ça doit faire bizarre, quand même.
Ouais, c'est hyper inquiétant. Et donc, heureusement que mon avocat était là, puisqu'à plusieurs questions, il leur a dit « Non, vous n'avez pas besoin de répondre à ça, ils n'ont pas besoin de savoir ça ». Et en fait, ils m'ont dit que j'étais sous surveillance et que maintenant, à chaque fois que j'organisais une réunion, une manifestation ou quoi que ce soit, que je devais les prévenir parce qu'autrement, je risquais d'aller en garde à vue.
Comment ça, sous surveillance, ils vous ont dit quoi exactement?
Pour te donner un exemple, je crois que c'est 5 jours après, alors vous allez voir à quel point on est violent dans le groupe. On a décidé juste d'aller devant les grilles qui bloquaient le terrain, d'aller faire une photo avec tous les riverains, avec le journal local Sud-Ouest, pour pas le nommer.
Ouais.
Et en fait, au moment où on a commencé à s'installer pour faire la photo, il y a 2 voitures de police qui sont arrivées des 2 côtés, qui nous ont pris en sandwich, ils nous ont tous mis en randonnion le long de la grille, et en prenant toutes nos identités.
Ils savaient que vous alliez venir ?
C'est ça.
Et comment vous l'expliquez?
Alors, je pense qu'ils scrutent les réseaux sociaux, parce qu'on a une page Facebook qui s'appelle ARA, l'association des riverains. Et donc, je suppose qu'ils scrutent les réseaux sociaux, et en fait, ils savent tout ce qu'on fait à la minute près, quoi.
Quand on entend votre témoignage, c'est vrai que ça fait réfléchir.
C'est exactement ce à quoi je fais référence. Encore une fois, quand je vous dis qu'il y a des gens qui sont allés donner à manger et à boire à des personnes qui s'étaient enchaînées à un arbre pour éviter qu'il soit coupé, ce qui était par ailleurs illégal de couper cet arbre à ce moment-là, et que ces personnes-là, on a toqué chez elles un dimanche matin à 10h pour les embarquer pour 48 heures de garde à vue et qu'on leur a mis 10 mois de sursis, c'est ça en fait qui peut se passer. Alors je ne dis pas que c'est la majorité de ce qui se passe, vraiment.
J'ai bien compris.
Et du coup, je ne dis pas qu'il faut supprimer tout ça. Je dis attention aux dérives, parce qu'une fois qu'on a l'arsenal juridique et législatif en place, où est-ce qu'on s'arrête ?
Jonathan, lorsque ça vous est arrivé, est-ce que vous avez pris ça pour de l'intimidation ?
Oui, clairement, parce que on sait très bien
là,
que...
C'est vrai qu'on franchit un cap.
Oui, c'est flippant.
Oui, parce qu'on sait très bien qu'on dérange la CDA, on nous l'a bien fait comprendre. On sait très bien que voilà, on les dérange, et en plus vu qu'on a déposé des procédures, les procédures ont pris 2-3 ans, donc le projet se retarde d'autant plus. Et en plus, ce qu'ils n'ont pas apprécié, c'est que maintenant la mairie est d'accord avec nous pour se combattre contre cette méga déchetterie, donc ça leur a pas plu non plus que la maire prenne position, et en fait ils nous font comprendre que on n'est pas les bienvenus, quoi.
Bon, on vous écoute, on vous croit, et évidemment je me remets pas en cause votre témoignage, en aucun cas. Je l'attends maintenant. Bon voilà, c'est votre version des faits. Voilà, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jonathan, et puis bon rétablissement. On vous souhaite le meilleur. Encore une fois.
Merci
Jonathan qui nous appelait depuis du côté de La Rochelle en Charente-Maritime. Vincent Nouzy nous rejoint. Bonjour Vincent Nouzy.
Bonjour.
Journaliste indépendant et auteur de Le côté obscur de la force, enquête sur les dérives du ministère de l'Intérieur et de sa police. C'est paru aux éditions Flammarion. Vincent Nouzy, vous avez entendu le témoignage de Jonathan ?
Oui.
Ça vous étonne ?
Non, pas du tout. Depuis plusieurs mois, les renseignements, ça s'appelle plus les renseignements généraux, mais ça s'appelle pas le renseignement territorial, les RT. Ouais. Sont remontés en puissance ces dernières années. Évidemment, ils ont été particulièrement mobilisés à partir des Gilets jaunes et puis surtout les mouvements sociaux qui ont émaillé notamment l'année 23 et 24, c'est-à-dire
la réforme des retraites,
des grèves, les méga-bassines, les émeutes et un certain nombre de mouvements. Et puis, au niveau de la surveillance, évidemment, alors, évidemment, il y a la surveillance des réseaux sociaux. Bon, ça, à la limite, c'est des sources ouvertes. Ils ont des gens pour le faire. Et puis, il y a la surveillance dite administrative, avec des techniques de renseignement, donc les écoutes, les balisages, les micros, la géolocalisation, et tout ça, ils sont en train d'exploser.
Malgré tout, Vincent Nouzy, j'imagine, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du domaine, vous l'êtes. J'imagine qu'il y a un cadre légal quand même, ils agissent dans la légalité.
Il y a un cadre légal qui est fixé depuis la loi de juillet 2015 sur les techniques de renseignement. Avant, il y avait les écoutes. Alors, les écoutes téléphoniques, c'est un peu ringard maintenant. Il y en a toujours à peu près environ 10 000 par an, mais c'est évidemment pas la majorité, puisqu'on a à peu près 100 000 demandes de techniques de renseignement par les services. Donc, 100 000, donc les écoutes, c'est à peu près 10%. L'important, c'est de voir que ce cadre légal, il a autorisé un certain nombre de techniques, et que les techniques les plus intrusives, par exemple la pose de micro, la pose de petite caméra ou l'intrusion informatique, sont celles qui se développent le plus. Donc on est passé d'un système où on était dans une surveillance, disons, un peu classique, et avec évidemment la multiplication des moyens techniques, on est passé à un système de surveillance qui est plus intrusif. Alors évidemment, il y a des contrôles. Il y a une commission qui est chargée de donner son avis. Mais elle donne son avis, elle donne son aval à 98%.
C'est celle dont on parle qui a donné ces chiffres, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
C'est ça. Elle s'appelle la commission. Elle a été justement instituée après cette loi de 2015. Elle est chargée de donner son avis.
Elle est indépendante
sur chacune.
Elle est indépendante.
Elle est indépendante. Elle est constituée de magistrats et de spécialistes qui doivent donner un avis avant que Matignon en fait mette en œuvre les techniques.
Et justement, Vincent Nouzy, ces avis, quand on voit ces chiffres, le nombre d'avis défavorables baisse sur les dernières années. Comment on explique ça ? C'est un changement du cadre ou c'est juste que les demandes sont mieux ciblées et plus pertinentes ?
Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un dialogue entre cette commission et les services de renseignement sur le thème « ne nous envoyez pas n'importe quoi ». Puisque cette commission est censée être très rigoureuse sur les critères, qu'il faut... On ne peut écouter les gens ou les surveiller que sur un certain nombre de motifs. On le sait, c'est le terrorisme, prévention du terrorisme, prévention du crime organisé, prévention des ingérences étrangères. C'est monté très fort ces dernières années. Et puis, la prévention dite des violences collectives, c'est-à-dire les manifestations qui pourraient mal tourner, etc. On l'a vu sur les soulèvements de la terre, etc. Donc ça, ils sont censés contrôler tout ça. Alors la question, c'est est-ce qu'ils ont les moyens de le faire ? Et la réponse est très clairement non, ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils le disent eux-mêmes très clairement dans leur rapport. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a des zones grises dans cette surveillance ? Oui, il y a des zones grises. Par exemple, quand on parle de l'entourage des cibles, la famille, les proches. Alors sur le terrorisme, c'est justifié, parce que souvent on a appris qu'il y avait des femmes d'eux, vous savez, la sœur qui passait des coups de fil au nom de la personne. Donc ça, c'était légitime d'étendre, disons, les critères. Et maintenant, cette notion d'entourage est assez floue, est assez élastique. Alors, évidemment, quand vous
pouvez. Maintenant, j'imagine, Vincent Nouzy, que c'est difficile. Je ne sais pas, j'imagine que c'est difficile de trouver un équilibre. Voilà, oui. Je me dis, si on déjoue un attentat demain, que effectivement les sœurs, les frères, les cousins ont été surveillés, que ça permet de remonter quelqu'un qui prépare un attentat, tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Et puis c'est dommage quand ça arrive à quelqu'un qui n'a rien fait, mais vous voyez ce que je veux dire?
Oui, sauf qu'en fait, les critères doivent être extrêmement précis et stricts. Et sur les questions du terrorisme, la prévention du terrorisme, il n'y a pas trop de débat, si vous voulez. Ouais. Et de même que sur le crime organisé, qui va se plaindre qu'on puisse surveiller des gens. La question, c'est un peu la frontière entre, à un moment donné, il faut que ça bascule en enquête judiciaire. Les policiers doivent reprendre la main pour faire des enquêtes. Sinon, si c'est que des écoutes dites administratives, on est dans une espèce de zone assez grise quand même. Et puis, la deuxième chose, le terrain sur lequel il y a plus de débat, c'est la question 1. De la prévention des violences collectives, donc extrémisme violent ou pas, et cette définition, il faut savoir que le nombre de personnes, ce que j'avais mis en évidence dans mon livre, le nombre de personnes qui étaient suivies sur ces motifs-là avait explosé, évidemment, au moment des Gilets jaunes, il n'avait pas retombé depuis. Les services ciblent de manière précise à ce nombre de gens, il y a eu même des critères qui ont été édictés par cette commission, mais il y a quand même un risque de dérive. Et puis, il y a des trous noirs. Il y a des trous noirs dans le système. Cette commission explique bien qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas contrôler. Par exemple, tout ce qui est recueil de données informatiques, ça se passe dans les services eux-mêmes, la DGSI pour la sécurité intérieure et la DGSE pour la sécurité extérieure. Et en fait, elle n'a pas accès direct à ces données.
Elle ne peut pas savoir ce qui a été vraiment scruté, ce qui a été surveillé.
Il y a de grands trous noirs. Et puis, dès que c'est la communication internationale, par exemple, vous faites une connexion Internet. Ça passe par Google, c'est une connexion internationale. Théoriquement, ils ont interdiction de surveiller des citoyens français sans avoir un aval. Or, comment voulez-vous contrôler cette masse de données incroyable de recueil des données informatiques? Et là, il y a un gros trou noir sur lequel la Commission elle-même dit qu'elle n'a pas les moyens de le faire.
Merci. Allez-y.
Il y a une grande vigilance à avoir parce que le risque de dérive, il y a des outils qui sont extrêmement puissants maintenant de surveillance. Et si c'est mis entre de mauvaises mains, ça peut vite déraper.
Merci Vincent Nouzy d'avoir été avec nous, journaliste indépendant, auteur du Côté obscur de la force, enquête sur les dérives du ministère de l'Intérieur et de sa police, paru aux éditions Flammarion. Antoine est avec nous au 32-16. Bonjour Antoine.
Bonjour à tous.
Corse, on est à Ajaccio.
C'est ça.
Bon, ai-je besoin de dire que c'est magnifique aussi, Perrine? Antoine, est-ce que ça vous rassure, ça vous inquiète, ce nombre augmente de personnes surveillées?
Ça me rassure, mais je suis assez étonné, en fait, de certains discours sur votre plateau.
Allez-y.
C'est-à-dire que, voilà, moi je suis corse. J'ai déjà manifesté dans des manifestations nationalistes qui se sont très mal passées.
Ouais.
Pourtant, je ne suis pas sur écoute. Je ne suis pas surveillé parce que quand je vais en manifestation, je suis pacifiste. Je vais juste manifester. En fait, la police ne débarque pas chez les gens sans raison. Quand j'entends « oui, mais on va donner à manger à quelqu'un qui est attaché à un arbre », mais est-ce que c'est une ZAD ? Moi, je suis désolé. Quand on n'a rien à se reprocher, les flics ne viennent pas à la maison. Et le discours, depuis tout à l'heure que j'entends, il est insupportable. Quand j'entends une personne sur votre plateau dire, par exemple, que Macron refuse la démocratie, que c'est irresponsable. Aujourd'hui, qui sont les irresponsables dans le pays? Qui appelle à contester les résultats d'une élection démocratique? Qui appelle à la révolution en permanence? Qui va détruire des choses en permanence? Et en fait, ce discours-là, il est plus entendable. Quand Loumir dit des choses comme ça...
Il n'y a pas que Loumir qui le dit.
Non, il n'y a pas que Loumir. Mmh. Mais par exemple, Loumir, il n'y a personne qui lui répond. Tout à l'heure, elle disait, LFI, c'est pas un parti extrémiste. Je suis désolé, le Conseil constitutionnel a bien précisé que... Conseil d'État a bien précisé que ce n'était pas un parti extrémiste.
D'extrême gauche.
Parce qu'au moment de la création, parce qu'on parle de ça en fait, c'est au moment de la création que se décide de quel côté va le parti. C'est à ce moment-là. Sauf que l'extrémisme, ce n'est pas que dans les idées. Mmh. L'extrémisme, c'est dans la manière de faire. Et aujourd'hui, le seul parti qui fait tout qui est contre la démocratie.
Ça c'est votre, non, monsieur, c'est ça, votre c'est avis, votre Antoine. Ça c'est votre avis, non, et on n'est pas là. Antoine.
En tout cas, on a entendu
ce que vous vouliez dire, Antoine. En tout cas, bon, le message d'Antoine, c'est que selon lui, voilà, on n'est pas forcément d'accord avec lui, mais en tout cas, selon lui, il n'y a pas
de Conseil d'État. Le Conseil d'État, il dit clairement, parce qu'on sort du Conseil d'État.
Non, mais on va pas faire le débat sur le
processus.
Non, mais je te le dis, effectivement. Non, je te le dis, on va pas faire le débat.
Un parti d'extrême gauche, c'est un parti qui prône la révolution et la fin du capitalisme. Ça n'est pas ce qu'on fait.
En tout cas, on vous a posé la question.
Pas d'extrême gauche.
Un record de personnes surveillées, c'est ton avis.
Non, c'est le Conseil d'État.
Et
l'avis
du Conseil d'État, mais c'est pas l'avis d'Antoine.
Non,
mais
le droit de
c'est ton avis, c'est celui du Conseil d'État.
Parce que moi,
attendez, on peut tous parler en même temps, personne ne va rien comprendre. C'est ton avis, Loumir. C'est l'avis du Conseil d'État.
C'est l'avis du Conseil d'État.
C'est l'avis du Conseil d'État. Ce n'est pas l'avis d'Antoine. Et son avis est valable aussi. C'est le sien. Voilà. Donc, on vous a posé la question. Les personnes surveillées, il y en a de plus en plus en France à l'heure actuelle. Est-ce que c'est rassurant ou est-ce que c'est inquiétant?
C'est très inquiétant pour 74% des personnes qui ont répondu à la consultation.
Vigilant en tout cas face aux libertés individuelles. Ouais. Tels sont les trois quarts de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.